cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Pierre Boulez.
Bonjour.
Alors le Louvre vous invite, donc d'une certaine manière vous entrez un peu au musée, ce que d'un côté évidemment gratifiant j'allais dire, mais...
J'en ressortirai quand même.
Est-ce qu'il y a un côté justement un peu effrayant, un musée qui est quand même un lieu où on fige les choses, vous là, qui symbolisez quand même un peu l'expansion en permanence, quelle...
Oui, je trouve que enfin, je ne suis pas enfermé dans le musée, c'est au contraire une initiative de Henri Loiret qui voulait que le musée soit vivant. Et il a invité, comme Anselm Kiefer, qui était vraiment très vivant, et Toni Morrison et Robert Badinter aussi, qui ont donné leur point de vue. Et je pense que l'année prochaine, il y aura aussi quelqu'un de très intéressant, je sais, je ne peux pas le dévoiler, mais qui sera très intéressant et très agité. Donc, je pense qu'on veut cette agitation, on veut que le musée ne soit pas un tombeau, mais au contraire, qu'il participe aux choses vivantes d'aujourd'hui.
Est-ce que justement cette célébration donne pas l'impression d'être en plus au Louvre un côté un peu intouchable, une figure un peu
non je pense que ça c'est très
même si
exagéré.
Vous avez quand même des ennemis on pourrait dire encore
il en reste oui bon peu importe hein, c'est la vie qui veut ça et donc il faut l'accepter tel que c'est tout simplement je trouve que c'est important non on n'est pas transformé en quelqu'un une espèce de monument comme ça
un surhomme
comment
un surhomme
non Non, oui, il faut de l'énergie, c'est-à-dire qu'il faut pour, disons, animer tous ces colloques ou tous ces concerts et ces répétitions, il faut, oui, dépenser de l'énergie. Mais je m'y attendais, je sais, c'est pas la première fois que je fais un projet, non pas de cette envergure, non pas au musée, mais il y a eu des projets comme l'Académie de Lucerne, par exemple, qui demande aussi 3 semaines de travail très soutenu. Donc, je suis habitué à ce genre de coup de collier qu'a donné, disons, pendant une période donnée.
Alors vous avez écrit, vous avez commenté, vous avez disserté, on vous a interrogé à peu près sur toutes les périodes possibles de l'histoire de la musique dite savante, on pourrait dire. Mais quel regard vous portez sur vous-même? Si vous pouviez sortir quelques instants de votre enveloppe, et comment est-ce que vous placez dans toute cette aventure sans fin est-ce que...
Je me remplace dans quelqu'un qui a eu 20 ans à la fin de la guerre, c'est-à-dire en 45. Et qui a donc trouvé une situation donnée, c'est-à-dire une situation où tout le monde avait été calfeutré dans son propre pays, avec tous les dangers que ça représentait aussi pendant 6 ans, de 39 à 45. Et il y avait un désir, je crois, très très grand d'ouverture, et d'ouverture sur le monde et sur les pays voisins, ne serait-ce que ça. C'est pourquoi moi j'ai eu des contacts très rapidement, déjà des 50-51 avec l'Allemagne. Il y avait des organismes et des institutions aussi qui étaient menés par des gens qui avaient été au contraire sous le boisseau pendant le nazisme et qui avaient pour la première fois la liberté depuis un certain nombre d'années de favoriser tout ce qui était expérimental, tout ce qui était aventureux. Et donc l'Allemagne était un pays tout à fait exubérant et désireux de rattraper le temps perdu pendant ce temps-là. Ce que vous trouviez aussi en Russie après l'effondrement de la Russie soviétique.
Alors, est-ce que les jugements que vous avez portés sur certains compositeurs ou sur certaines parties de leur œuvre, est-ce qu'avec le recul, vous avez des regrets parfois dans des écrits, dans des choses? Est-ce que vous avez votre vision, votre perception a pu changer
Ça ne servirait à rien d'avoir des regrets, de toute façon. On ne change pas les textes ont été imprimés et c'est pas moi qui vais faire la censure de mes textes. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça que quand on édulcore ou quand on émascule les textes, tout simplement. Je trouve qu'on a eu des positions très précises à un moment donné, elles m'ont servi à exister. Elle n'était pas si fausse que ça, après tout. Il y avait peut-être comme ça des coups de gueule un peu fort, mais il faut voir à quelle situation on avait à faire face, tout simplement. Et donc, il y avait un moment donné où il fallait, par moment, déchirer la bienséance, tout simplement. Donc, je l'ai fait, j'en ai aucun remords, aucun regret et aucune nostalgie.
Alors justement, quand parfois on parlait de scandale, d'insolence, enfin tout cet establishment qui à l'époque pouvait être conservateur et qui vous a amené à créer le domaine musical, et quand vous regardez la France musicale aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'elle a finalement énormément évolué? Est-ce qu'on n'est pas un peu... Il n'y a plus vraiment de débat, vraiment de vraies batailles d'Hernani, de crépages de chignons sur des considérations esthétiques ou formelles. Vous n'avez pas envie justement de plastiquer un peu une sorte de ronflement ambiant?
Ben, c'est pas à moi de plastiquer maintenant. C'est pas à moi de plastiquer maintenant, je veux dire, c'est à des gens de 20 ans de plastiquer, moi je veux bien, tout à fait. Et du reste, le plastiquage n'existe plus parce que la société a changé. Et la société accepte qu'il y ait des institutions, des organismes qui privilègent l'art contemporain. Alors, pour la peinture, on le voit, mais là, il y a une question de spéculation à la fois qui s'y mêle, tandis que pour la musique, il n'y a heureusement pas de spéculation possible, parce que plus on joue la musique, plus elle coûte cher. Donc, on sait très bien que c'est de l'argent qui est non pas perdu d'ailleurs, mais qui est dépensé pour des causes justes, très souvent. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Alors, évidemment, quand on a un jeune compositeur doué, enfin, il y a beaucoup d'organismes qui se précipitent et qui commandent une œuvre. Le danger, c'est simplement qu'on écrive à la commande et qu'il n'y ait plus, si vous voulez, de réflexion ou d'esprit critique par moment. C'est ça dont j'ai peur. Je ne vois pas ça comme un danger mortel, mais c'est ça dont j'ai peur, que quelques-uns se laissent apprivoiser de cette façon-là et ne gardent pas leur qualité intrinsèque et surtout leur qualité essentielle qui est l'indépendance.
Cette spécificité à la France aujourd'hui, vous voyagez énormément, vous avez face à vous des élèves, des musiciens, vous fréquentez d'autres musiciens, d'autres compositeurs même du monde. Comment vous voyez justement l'état musical de la France en 2008?
Mais il n'est pas si mal que ça. Enfin, évidemment, on aimerait quelquefois que les orchestres aient plus de prestige à l'étranger. Qu'on ait quelque chose à aligner vis-à-vis de la Philharmonie de Berlin ou de la Philharmonie de Vienne, ou des orchestres comme Chicago ou Cleveland. Mais ça, il y a quelque chose qui est déficient en France. Je pense que c'est l'hétérogénéité ou le manque d'homogénéité d'une grande institution. Est-ce que ça vient des nominations qui se changent trop souvent? Est-ce que ça vient d'une incertitude vis-à-vis des pouvoirs publics, etc., etc.? Il y a beaucoup de causes. Certainement pas la valeur des musiciens, parce que la valeur des musiciens est aussi grande que dans des pays européens qui sont au même niveau, disons, social et au même niveau de salaire, à peu près. Donc, il y a quelque chose dans l'organisation. Moi, je n'ai jamais fait partie d'une organisation française, donc je ne peux pas vous dire exactement en quoi ça consiste, mais il y a certainement quelque chose là qui doit être amélioré.
Justement, vous avez une facette de vous, le compositeur, le chef d'orchestre, mais également quelqu'un qui a créé des institutions, qui a créé des... Est-ce que pour vous, c'est la même chose finalement?
Oui, c'est la même chose. C'est l'autre côté où on est multiface, c'est-à-dire que pour moi, le compositeur ne se détache pas du chef d'orchestre parce que je joue au fond ce qui m'a formé beaucoup et même plus, même ce qui m'a influencé ou ce qui a attiré ma curiosité. Mais je sais que pour, disons, être indépendant vraiment, on doit forger soi-même sa propre institution. Et ce n'est pas pour soi-même seulement, et c'est là où c'est important, c'est qu'il faut créer ces institutions pour les autres. C'est ainsi que l'Intercontemporain est une institution qui est très importante pour tous les compositeurs, pas pour moi seulement. Moi, ça a été important de la fonder parce que ça m'a donné raison sur le fait que la musique contemporaine doit être interprétée professionnellement au même niveau que les œuvres de répertoire. Et l'IRCAM, c'est parce que j'ai vu dans beaucoup d'endroits, il y avait toujours des unités de recherche, mais qui était dépendante de quelque chose, d'une autre organisation qui n'avait pas les mêmes buts. Et dès que cette organisation avait des problèmes de budget, c'était toujours cette cellule de recherche musicale qui en pâtissait la première. Et alors, quand on m'a demandé, quand on m'a fourni l'occasion, c'est-à-dire Pompidou, tout simplement, et j'ai dit oui, mais à condition que cet institut soit complètement indépendant et puisse vivre par lui-même et ne soit pas, disons, dépendant des autres au point de vue budgétaire spécialement. Donc voilà comment ça s'est passé.
Sur l'aspect justement institution ou chantier, il y a le fameux grand auditorium, dont vous êtes un fervent défenseur, qui va voir le jour bientôt, avec toujours cet éternel débat de savoir, vu l'état de l'enseignement musical en France, les conservatoires qui parfois tiennent avec des bouts de ficelle, est-ce qu'un tel investissement est raisonnable ? Comment vous
Bien sûr qu'il est non seulement il est raisonnable, mais il est intéressant. Il est un non seulement intéressant, mais il est capital parce qu'il donnera un modèle de la vie musicale. Je veux dire, vous avez une salle comme on dit, il y a des salles comme le Théâtre des Champs-Élysées, comme le Théâtre du Châtelet ou la salle Pleyel par exemple. Mais ce sont des outils qui sont très vieux. Et je vois par exemple à l'étranger le Wiener Philharmoniker, par exemple, le Wiener Philharmusikverein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la société de musique, a fait creuser le sous-sol pour créer des espaces en dessous de la salle elle-même, parce que simplement les besoins de la vie musicale aujourd'hui rendent nécessaire cette organisation et la multiplicité des salles de répétition, des salles de rencontres, etc. Ça, à Pleyel, vous ne pouvez pas faire. Au Théâtre des Champs-Élysées, vous ne pouvez pas faire davantage. Ou il faudrait aussi pousser les murs avec les coudes, enfin, absolument. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est un nouveau bâtiment qui comprenne la situation d'aujourd'hui, qui comprenne au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui donne la possibilité de plusieurs types d'espaces pour que la vie musicale soit vraiment une cité, ait lieu dans une cité et non pas dans une salle seulement.
Sur l'aspect chef d'orchestre, est-ce que la part physique de la direction d'orchestre vous fait aborder les partitions différemment ? Est-ce qu'en dirigeant une partition qui n'est pas la vôtre, vous avez l'impression de percevoir l'œuvre différemment ?
Ah, je l'aperçois, oui, certainement, je l'aperçois différemment, en sens que je sais comment, quels sont les problèmes, quels sont les problèmes directs, quels sont les problèmes indirects, quels sont les problèmes des musiciens par rapport au chef, quels sont les problèmes du chef par rapport à la partition. Donc, oui, je connais mieux une partition quand je l'ai jouée que quand je ne l'ai pas jouée. Parce que quelquefois, on peut même superficiellement lire une partition très vite pour voir à quel niveau elle se situe. Et bien sûr, on n'approfondit pas tous les problèmes à ce moment-là. Tandis que si vous devez jouer, vous devez approfondir tous les problèmes. Et donc, vous la connaissez mieux. Et donc, vous pouvez avoir un jugement beaucoup plus autorisé.
Et alors, dernière question, Pierre Boulez, est-ce que vous composez en ce moment ?
Bien sûr que je compose en ce moment, pas exactement maintenant, parce que cette invitation du Louvre m'accapare beaucoup à cause des différents concerts, des différentes prestations qu'on doit fournir. Mais certainement, dès le 3 décembre, vous pouvez être sûr que je me remettrai au travail.
Bien, bon travail, Pierre Boulez. Merci.
Merci beaucoup.
Cobuzz.com Rencontre par Mark Zisman.